OK. Alors, si je devais vous poser une question ce matin, quand je dis le mot psaume, quoi le premier psaume?
Alors, moi maintenant, c'est le psaume 13. Et différentes raisons pour ça. Ça fait une dizaine d'années que c'est vraiment le psaume 13 pour moi qui vient me chercher énormément. Parce que, à un moment donné de ma vie, je me suis posé les mêmes questions et j'ai vécu les mêmes émotions qu'on voit dans le psaume 13. Et quand je regarde en arrière, je sais que c'est Dieu qui m'a emmené dans ce tunnel ténébreux. Et pendant des années, je suis tombé dans une confusion vraiment difficile à décrire. Puis pourtant, c'est pendant ce temps-là que j'ai découvert le psaume 13. Et pour la première fois, même si ça faisait des années que je lisais, ça ne m'a jamais frappé autant que dans les 10 dernières années. Alors, il est possible que peut-être certains d'entre vous savez de quoi je parle, que vous avez connu ces choses-là. Peut-être que présentement, vous les connaissez. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, ben, la lecture du psaume 13, ça va résonner quand vous allez passer par ce genre de désert-là. Et sachez une chose, c'est que ce type d'épreuve-là, ce n'est pas toujours relié au péché. Hein? David était un homme vraiment selon le cœur de Dieu, et ça n'a pas empêché de vivre des périodes d'angoisse, d'anxiété, de dépression épouvantable. Et ce n'est pas aussi le genre d'épreuve qui est réservé aux faibles et aux fragiles. Parce que soyez certains que les plus forts d'entre nous peuvent passer par des moments où on souffre énormément physiquement, émotivement et aussi spirituellement. Et ce qui use une personne, ce n'est pas une épreuve qui dure quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines, mais c'est quand ce type d'épreuve-là dure des mois et des fois des années. Et David, quand il a écrit le psaume 13, c'était après des années où il était poursuivi par Saül. Et ces poursuites-là de Saül ont fait leur chemin dans le corps de David, dans le cœur de David et dans l'âme de David. Alors, je vous invite, après avoir prié tantôt, à plonger dans le psaume 13. Et ce psaume est pour vous. Si vous êtes de ceux qui vivent une épreuve qui dure et que Dieu tarde. Ça, c'est deux ingrédients, là, qui est extrêmement difficile. Quand l'épreuve dure, que Dieu tarde, ça nous amène dans tout un tunnel. Alors, prions. Seigneur, ce matin, on veut te rendre grâce pour ta parole qui a été écrite justement pour nous consoler. Et tu as utilisé David et les expériences de sa vie pour que quand nous allons vivre des expériences similaires, pas exactement pareilles, mais similaires, on puisse se retrouver dans les Écritures et trouver une consolation et de l'espérance. Parce que jamais tu nous as dit que parce qu'on devenait chrétien, qu'on serait dans... Je rends grâce au Seigneur pour le psaume 23, mais les eaux ne sont pas toujours paisibles et les pâturages ne sont pas toujours verts. Et David lui-même a vécu. Pas toujours dans les verts pâturages et pas toujours dans les eaux paisibles. Alors Seigneur, parle à nos cœurs ce matin au moyen des Écritures par la puissance du Saint-Esprit. Je remets ces âmes-là ici ce matin, entre tes mains. Amen. Alors, tournez vos Bibles dans le psaume 13. J'avais pensé couvrir tout le psaume 13, mais je pense qu'on va être bon pour faire 3 versets. Alors, on va lire psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante, ou dis-je, je murmure, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Ceux qui sont des parents, là, vous avez fait des voyages en automobile, hein? Après un certain temps, qu'est-ce que les enfants disent souvent? On arrive-tu? Ou jusqu'à quand? Are we there yet? Ou jusqu'à quand? Pour eux, c'est une épreuve qui dure et l'arrivée tarde. Les premiers versets de David, c'est comme un enfant qui est dans un auto depuis une dizaine d'heures. Ça s'étire. On va se concentrer ce matin sur les versets 1 à 3. Et quand on lit le psaume 13, c'est évident que David est au bout de sa corde. Là. Au bout de sa corde au niveau physique, au niveau émotif et au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, parce qu'il est troublé de la façon de qu'est-ce qui se passe avec le Seigneur. Que Dieu tarde, dans le fond. Et c'est ça qui trouble David. Et c'est ça qui vous trouble, peut-être. Comme je vous l'ai dit, merci Seigneur si vous n'êtes jamais allé dans ce tunnel-là. Mais pour ceux qui y sont allés, là, je vous garantis que c'est difficile. Jusqu'à quand? Mais Dieu a voulu, par David, nous donner ce psaume-là pour que, justement, quand on passe par ce chemin-là, on n'a pas l'impression qu'on est à moitié fou ou qu'on n'est pas chrétien. Tournez vos Bibles dans Romains 15. Romains 15. Gardez votre doigt dans psaume 13, là. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, ces choses-là, ce psaume-là, il a été écrit pour que ça nous serve d'instruction et que ça nous donne d'être patients, persévérants, puis que ça nous console, puis ça nous donne l'espérance. Alors, on va replonger dans le psaume 13 et puis on va ce matin se concentrer sur les jusqu'à quand. Le premier jusqu'à quand, il y en a 4. Jusqu'à quand? « Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Il y en a peut-être quelques-uns ici qui ont connu ça, ce sentiment-là. Et peut-être que même vous n'avez même pas été capable de le sortir de vos lèvres parce que vous dites, « Ben non, ça ne se dit pas, ces choses-là. » Mais David l'a dit. Et le psaume 13, pour moi, a mis des mots dans mon cœur, dans mes prières, que je me disais, ça se dit pas, je suis chrétien. Et pourtant, c'est ça qui se passait dans mon cœur. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas m'oublier? Quand l'épreuve dure, des fois, on pense à tort que Dieu nous ignore. Que Dieu, nos problèmes, ça ne l'intéresse pas. Et quand ça dure assez longtemps, là, la foi vacille et la tentation d'abandonner, elle est tellement grande. Tellement grande. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Et c'est justement à ce moment-là, quand l'épreuve dure, puis qu'on a l'impression que c'est rien que ça qu'on a dans la tête, ce jusqu'à quand-là, il faut ramener à la vérité. Et c'est cette vérité suivante-là que vous devez imprégner dans votre cœur. C'est correct qu'on exprime ça au Seigneur, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Mais il faut ramener ça avec une autre vérité dans Ésaïe 49, et au verset 14. Alors, Ésaïe 49, verset 14. Ésaïe 49, verset 14, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et là, Dieu utilise le lien le plus fort humain, une femme, une maman et son enfant. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ça, c'est l'argument que Dieu nous donne, nous, aux humains, sur la terre. Et là, il donne une hypothèse qui est peu plausible. Quand elle l'oublierait, même si une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, ce qui est extrêmement peu probable, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Quand cette idée-là vous passe par le cœur, ou vous passe par la tête, et vous brasse des émotions, et là vous amène à vaciller, rappelez-vous de cette vérité-là. Moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains. Les meurtrissures de Christ, c'est nos noms. Ne peut pas. Alors, qu'importe l'intensité ou la longueur de la tempête dans laquelle vous êtes ou qu'un jour vous allez être, je vous en supplie. Prenez ces vérités-là, imprégnez-les dans votre cœur. Partagez ce que vous vivez avec un ami. Et ne négligez pas l'Église locale. Je comprends ce sentiment-là. Je comprends cette pensée-là, mais c'est une erreur de faire ça. Quand vous êtes dans une tempête, c'est le temps de trouver un ami ou un conjoint, ou si ce n'est pas possible dans votre cas, un ami. Partagez ce que vous vivez, priez ensemble, passez à travers. Le deuxième jusqu'à quand, retournez dans le psaume 13. Alors, premier, c'est jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Sans cesse, on a notre réponse. Je ne t'oublierai point. Ça, c'est la vérité. Et là, David continue et il va un pas plus loin. Il dit, « Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Et regardez à votre gauche dans le psaume 10, verset 1. C'est pas la première fois que David exprime ça. C'est pas la première fois qu'il exprime ça. Dans le psaume 10, au verset 1, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Alors, quand on dit que Dieu cache sa face, c'est comme si te tiens-tu éloigné? Et pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Ça, c'est extrêmement difficile. Quand on est dans une détresse, que tout d'un coup, on a l'impression que Dieu cache sa face puis qu'il y a un éloignement, ça nous amène dans tous nos états. Pour ceux qui ont marché un peu avec le Seigneur, là, vous savez de quoi je parle. Et on pourrait dire qu'au début, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Tu sais, oublier des gens, c'est une chose, mais cacher sa face, c'est comme un acte volontaire. Tu sais, si j'oublie de mon ami Yvon-Pierre, j'oublie je le néglige, etc., c'est une chose. Mais de me cacher de lui, là, c'est comme un acte volontaire. Et David, c'est ça qui faisait sa souffrance. Non pas seulement Dieu m'oublie, mais il cache sa face. C'est épouvantable, ce sentiment-là. C'est un acte volontaire et c'est ce que je me répète, c'est ce qui causait la grande souffrance de David. Mais pour nous, quand on vit ces sentiments-là, c'est réconfortant de penser que David, le roi selon le cœur de Dieu, a éprouvé la même chose. Et à ce moment-ci, quand on a l'impression que Dieu cache sa face, il faut se retourner à Jésus-Christ et se rappeler que lui a vécu cet abandon. Là, qu'est-ce qu'il a crié à la croix? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et lui a été abandonné dans la réalité. Nous, c'est des impressions qu'on a. Ce n'est pas la réalité, mais parce que lui a été abandonné dans la réalité. Et que moi, j'ai cru en Christ, je suis né de nouveau, je ne peux plus être abandonné. La réalité, c'est que je ne peux plus être abandonné. Et Dieu ne me cache plus sa face. Quand je reçois Christ, c'est un sourire du Père qui me regarde. Ce n'est pas une face cachée. Et je vous dis, on rentre dans les pensées les plus profondes de notre âme avec ce texte-là. Et ce que j'essaie de faire avec le psaume 13, c'est de démystifier l'idée qu'on se fait d'être chrétien. C'est comme on aime le psaume 23. Gloire à Dieu pour le psaume 23. Isaïe, si on était toujours dans le psaume 13, on voudrait se tirer une balle. Et on rend grâce à Dieu pour les verts pâturages et les eaux paisibles. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Sentez-vous pas coupable si ce n'est pas toujours comme ça. Je ne peux pas être abandonné. Quand je regarde à la croix de Christ, lui, il a été abandonné. Mais moi, je ne peux plus être abandonné. La face de Dieu a été cachée envers le Fils. Elle ne peut plus être cachée à mon égard. Ce que j'ai de la part du Père, c'est un sourire. Pas à cause que je suis un beau petit bonhomme, non, je suis un pécheur épouvantable, mais racheté, pardonné, sanctifié, justifié par Jésus-Christ, j'ai droit au sourire du Père. Il faut remplacer ces impressions et ces émotions-là par la vérité. Et ça nous rééquilibre. Et on sort des jusqu'à quand? Troisième. David n'est pas sorti encore. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Et ça ne va pas bien. Il va en sortir un autre. Jusqu'à quand? Un troisième. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, chagrin dans mon cœur. Chaque jour, les soucis et les chagrins, ça l'arrête pas. C'est quand on voyait David, là, on voyait soucis à sa gauche, chagrin à sa droite. C'est ça qui pesait dans son âme. Pour une période de sa vie, David avait deux compagnons aussi, souci et chagrin. Qui est-ce qui voudrait avoir des amis comme ça? Je vous présente mes amis, souci, chagrin. Ça, c'est ce qui accompagnait David. Chaque jour. Je ne vous connais pas. Je sais. Ici, il y en a qui ont ces compagnons-là. Soucis. Chaque jour. Il y en a qui ont eu ces compagnons-là dans le passé. Il y en a qui, présentement, c'est ça, vos compagnons. Soucis. Soucis. Et si un jour, vous avez ces compagnons-là, ces soucis et chagrins, là, vous allez vous rappeler du psaume 13. C'est-à-dire, ben, je ne suis pas tout seul. Et soucis et chagrins vont être là aussi longtemps que Dieu va le permettre. Parce que quand soucis et chagrins sont là, Dieu est après nous apprendre une chose. On marche par la foi et non pas par la joie. C'est une grande vérité à apprendre dans la vie chrétienne. Et c'est difficile à expliquer pourquoi quelques-uns des plus grands hommes de Dieu ont vécu avec soucis et chagrins pendant une longue période de leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils péchaient. Je sais que c'est quoi notre première pensée. Il doit pécher. Il doit avoir un péché dans sa vie. C'est pas toujours. Des fois, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Pourquoi soucis et chagrins font partie de leur quotidien? Bien que des hommes et des femmes de Dieu servent le Seigneur, lisent leur Bible, prient, vont à l'église locale, confessent leurs péchés, ne pratiquent aucun péché, et pourtant, soucis et chagrins font partie de leur vie. À leur lever le matin, toute la journée, au milieu de l'année, quand ils vont aux toilettes, ils se réveillent et qu'est-ce qui les attend? Soucis et chagrins. Au lever le matin, toute la journée. C'est ce que David vivait ici. Chaque jour, soucis, chagrins. C'était comme deux vilaines taches que David n'arrivait pas à effacer, ou deux nuages qui se promenaient au-dessus de lui. Soucis d'un bord, chagrin de l'autre. Et je sais, vous allez me dire, oui, mais Sylvain, le psaume Philippiens 4:6 ou Philippiens 4:4, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Ces grands hommes de Dieu, Martin Luther, là, grand réformateur, il y a eu une période où soucis et chagrins étaient ses compagnons de vie quotidiennement pendant tellement longtemps qu'à un moment donné, sa femme, elle s'est habillée en noir un matin. Puis elle est allée voir Martin Luther. Puis Martin lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, pourquoi tu t'es habillée en noir? Elle dit, je te regarde et j'ai l'impression que Dieu est mort. Il en est sorti, Martin. Connaît Charles Spurgeon. On l'appelait le prince des prédicateurs en Angleterre dans les années 1800. Il a été accablé de dépression toute sa vie, avec des montées, des redescentes, des montées, des redescentes. Je pourrais vous nommer une liste de grands hommes de Dieu qui ont vécu avec le psaume 13. Mais qu'à travers ça, Dieu leur enseignait à marcher par la foi et non pas par la joie. Ils se sont accrochés à Philippiens 4:4. Hein? Philippiens 4:4, non. C'est une belle chanson, mais je vous dis qu'il y en a des gens dans l'église, là, ils le chantent et ils ont la larme à l'œil. La joie est difficile à saisir à un moment donné. Et ça n'a rien à faire avec le péché. Des fois, ça peut être un problème physiologique, neurotransmetteur ou je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais je vous promets une chose. Un jour, Dieu va changer ces deux compagnons-là par qui paix et joie. Dieu va vous débarrasser de vos deux compagnons, soucis et chagrin. Un jour, il va les remplacer par deux autres compagnons, paix et joie. Persévérez, et je vous le dis, ne négligez pas l'Église locale. Trouvez-vous un ami, une amie avec qui parler. Et combattez. Quatrième jusqu'à quand? On termine avec lui ce matin. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alors, ce que David a peur, c'est la défaite. Hein? David avait reçu une promesse, tu vas être roi. À peu près, pas longtemps après, qu'est-ce qui se passe avec lui? David est comme une souris poursuivie par des milliers de chats, avec à la tête un lion, Saül. Quand ça dure des années, là, ça fuse. Et là, David, à un moment donné, il en est venu à penser que son ennemi, Saül, il va avoir sa peau. Mais dans un prochain message, je vais élaborer là-dessus. Alors, nos ennemis à nous, comme chrétiens, ce n'est pas Saül et ses soldats, c'est le diable. C'en est un, ça. Il cherche qui il dévorera. Et continuellement, la même phrase que dans le Jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit ça? Dieu t'a oublié. Dieu a caché sa face. Tu fais de quoi de mal? Toujours la même chose. Il faut répondre par la même chose que Jésus a répondu dans le jardin, dans le désert. Il est écrit. Ça, c'est un ennemi qu'on a, le diable. Le deuxième ennemi, c'est moi-même, ma chair. Tournez vos Bibles dans Galates 5. Galates 5. Et okay, Galates 5 et verset 17. Alors, Satan, l'ennemi spirituel, et la chair ici, au verset 17, Galates 5, 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une lutte, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la chair? La chair, au verset 19, c'est la débauche. Que ce soit en pensée ou en action, c'est toute activité sexuelle, impureté, dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Vous voyez une bonne chicane avec votre mari, là, c'est la chair. Ça. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Ça, c'est la chair. La chair, c'est le principe du péché en moi que je suis appelé à crucifier par l'Esprit Saint. Ça, c'est un deuxième ennemi. Le troisième ennemi, mais c'est le monde dans lequel on vit, toutes ces idées, ces idéologies, ces croyances qui nous tirent vers la convoitise et l'orgueil. On trouve ça dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Alors, je veux conclure, là. Et nos ennemis aussi, c'est toute peur ou obsession qui nous paralyse. Ça aussi, c'est des ennemis. La COVID, là, si vous êtes obsédé, anxieux, et ça vous paralyse complètement, ça devient un ennemi. La mort, la maladie, votre propre salut même. Parce que des fois, quand on a des sentiments comme ceux que David vit, on en vient à se poser la question, mais j'ai jamais pensé qu'un chrétien pouvait vivre ce que je vis. Ah, est-ce que je suis chrétien? Puis là, on tombe dans un tourbillon épouvantable. Les finances, c'est une obsession qui nous paralyse et un ennemi. La fin des temps, l'antéchrist. On est tellement paralysé par tout ça là, qu'on ne fonctionne plus. David, lui, n'en pouvait plus avec son ennemi. L'épreuve durait, Dieu tardait et il souffrait énormément. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est quoi mon ennemi à moi? C'est quoi mes peurs? C'est quoi mes obsessions qui me paralysent? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Quand je lis, quand je pense ces choses-là, là, je me tourne vers la croix, encore une fois, et je dis, Seigneur Jésus, tu as été crucifié pour mes péchés, tu ne peux pas m'abandonner, tu ne peux pas me cacher ta face. C'est vrai que soucis et chagrins m'accompagnent pour un certain temps, mais je sais que ça va être remplacé par paix et joie, et qu'il n'y a rien qui peut me nuire. Parce que je t'appartiens. Imprégnez cette vérité-là dans vos cœurs. Quand vous avez l'impression que l'ennemi vous tire vers le bas et vous paralyse complètement. Alors ce matin, ce qu'on a vu simplement, c'est trois versets du psaume 13. C'est les plaintes d'un homme qui vit une épreuve qui dure et il semble que Dieu... Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins chaque jour dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alors, si c'est votre réalité et que vos prières ne sont que des jusqu'à quand, vous n'êtes pas anormaux. C'est normal. S'il vous plaît, arrêtez de vous sentir coupable. Condamnez-vous pas. Vous êtes en bonne compagnie. David a éprouvé ça. Négligez pas l'Église. Trouvez-vous un compagnon, une compagne avec qui lutter. Ouvrez votre cœur. Moi, je dis, si je n'avais pas eu ma femme pendant ce temps-là, là, ouf, je ne sais pas ce qui serait passé. Alors, je vais vous laisser sur une note plus encourageante, le verset 6. Verset 6, je vais vous laisser ruminer avec le verset 6 du psaume 13. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Après tout, c'est jusqu'à quand-là, là, il termine avec « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Si c'est tout ce que vous pouvez dire, après avoir exprimé « Ô Seigneur, vos jusqu'à quand-là », si vous êtes capable d'exprimer ça, « J'ai confiance en ta bonté. » Parce que c'est tout ce que je pouvais dire pendant des années de temps dans ma vie, dans les derniers 10 ans. Je vous dis une chose, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et même si vous vous sentez à moitié mort, à tous les niveaux, si vous êtes capable de dire, après avoir dit vos jusqu'à quand, j'ai confiance en ta bonté, bien votre foi, elle est drôlement vivante. Parce que dire j'ai confiance en ta bonté, après avoir dit jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, ça prend quelqu'un de vivant. Même si vous vous sentez à moitié mort, physiquement, émotivement et spirituellement, terminez-vous jusqu'à quand par « J'ai confiance en ta bonté. » Alors, Dieu voulant, la prochaine fois, on va aller après les jusqu'à quand. David a fait 3 requêtes qu'on va explorer après ces jusqu'à quand. Prions. Eh bien, Seigneur, merci tellement pour le psaume 13. Pour ceux d'entre nous qui ont passé par ce tunnel ténébreux, c'est réconfortant. Et on réalise qu'on n'est pas à moitié fou, qu'on n'est pas qu'on peut être chrétien, solide, pas vivre dans le péché et se retrouver dans cette terrible position-là, mais on est en bonne compagnie avec David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, et combien d'autres hommes et femmes chrétiennes les plus sérieux que tu as amenés à vivre ce psaume 13-là, afin de leur enseigner de marcher par la foi et non pas par la joie. Je te rends grâce pour toutes ces âmes ici qui ont passé par ça, et je les vois, Seigneur, travailler par toi. Ça m'édifie, ça m'encourage. Et pour ceux qui un jour vont le passer, ils vont se rappeler du psaume 13. Ils ne se sentiront pas aussi coupables que moi je me suis senti, parce que je ne connaissais pas vraiment ce psaume-là. Eh bien, bénis-nous comme Église. Eh bien, que ton nom soit glorifié. Aie pitié de ces gens qui peut-être présentement passent par ça. Ma parole, ma prière, Seigneur, c'est que ces mots qu'on a lus puissent pénétrer ces âmes et leur donner la force et le courage de dire « J'ai confiance en ta bonté. » Dans ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.